Alors après notre première partie consacrée à la foi des fondateurs, on ne présente pas Cornelio Samaroga. Cornelio Samaroga est tessinois à l'origine, il est né à Rome en 1932. Il est père de 6 enfants et donc de pas mal de petits-enfants, j'imagine, 16. Il est juriste et diplomate. Il est docteur en droit de l'université de Zurich. Il est entré dans le corps diplomatique suisse en 1960 et il a occupé de nombreuses fonctions, notamment en tant que négociateur dans le domaine du commerce et du développement. De 1984 à 1987, il a été secrétaire d'État aux affaires économiques extérieures de la Confédération. De 1987 à 1999, il a été président du CICR, et quel président ? Un président très engagé et très influent sur le front humanitaire, sur le front diplomatique, notamment dans les Balkans, mais pas seulement, partout, où il y avait des souffrances à atténuer à travers une action humanitaire. Son rayonnement dans le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été décisif, et parmi ses nombreux accomplissements, il faut signaler notamment l'accord global sur l'interdiction des mines antipersonnelles. S'il existait une remise des Césars de l'humanitaire, je vous garantis que Cornelio Samaroga en aurait glané un certain nombre. En fait, de César, ce sont surtout des prix et des titres de docteur honoris causa qu'il a reçus d'une dizaine d'universités de par le monde. Après ses 12 ans de règne au CICR, Cornelio Samaroga a présidé le Centre international de déminage humanitaire à Genève de 2000 à 2008. Il est aujourd'hui président de la Fondation Initiative et Changement International et reste très engagé et actif dans plusieurs conseils de fondation, en particulier la Fondation internationale contre le cancer. Alors, quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'auditoire Calvin, en tant que chrétien, président, diplomate, et surtout, en tant qu'homme engagé au service de l'humanité. J'ai choisi une petite phrase de Gramsci, qui est très célèbre, mais qui lui va comme un gant. Face au pessimisme de l'intelligence, il faut faire triompher l'optimisme de la volonté. À toi la parole. Je te remercie.
Ne craignez pas que ce Tessinois que je suis se mette maintenant à vous parler non pas dans votre langue qui est le français, mais si je salue d'habitude au début de mes conférences les présents par le Gluskot, c'est que des 4 langues que je parle, j'ai trouvé que cette expression qui est celle des Autrichiens, des Bavarois, est la meilleure parce qu'elle invoque le témoignage du Tout-Puissant dans le dialogue qui commence. Je vous dis donc Grüß Gott à vous tous, et vous serez maintenant confrontés au fond, comme le titre de mon exposé le dit, moi, chrétien convaincu, président sans religion, vous serez confronté à un témoignage très personnel, bien différent de tout ce que nous avons entendu tout à l'heure, d'historiquement très intéressant. Je commencerai par une citation. « Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. » Fin de citation. J'avais relu cette phrase au début du texte de 1692, trouvé dans une vieille église de Baltimore, lorsque je reçus en mai 1986 à Berne un téléphone inattendu de Genève me disant que j'étais pressenti comme futur président du CICR. Je connaissais la Croix-Rouge par ma mère infirmière de la Croix-Rouge italienne, par mon grand-père maternel qui était le médecin-chef de la Croix-Rouge italienne pendant la Première Guerre mondiale et qui, je l'ai découvert plus tard, avait participé à la conférence de Cannes qui a fondé la Ligue des sociétés de Croix-Rouge. Je la connaissais par mon grand-oncle paternel qui vivait en Italie, qui était le vice-président de la Croix-Rouge italienne. J'avais beaucoup entendu parler de Société Nationale, mais je ne connaissais pas beaucoup de cette pourtant prestigieuse institution qu'est le CICR, si cela n'était pour une mention des conventions de Genève dans le cours de droit international public à l'Université de Zurich, ou beaucoup plus de mon passage par l'Institut universitaire d'hautes études internationales à Genève comme stagiaire diplomatique en 1961. Et j'avais aussi des souvenirs de l'histoire de Genève où j'avais passé 7 ans comme diplomate économique. Un aspect de la Croix-Rouge m'était toutefois resté en mémoire, les valeurs fondamentaux du comité international, soit l'indépendance, l'impartialité et en tout premier lieu, la neutralité. Compte tenu de mes principes de vie, décidés à 18 ans, dans des exercices spirituels que j'avais faits comme un scout dans le couvent de Subiaco, à côté de Rome, là où Saint-Benoît émit la veille des bénédictins, mes principes de vie étaient servir, défendre la dignité humaine, vivre pour et en famille. Et compte tenu de ces principes, l'appel du CICR tombait sans doute sur un terrain fertile. Surtout que, comme chrétien, j'avais été, dès mon premier âge, particulièrement marqué par la parabole du bon samaritain de l'évangile de Luc, où humanité, volontariat, indépendance, impartialité et notamment neutralité apparaissaient de manière évidente dans l'action de secours aux blessés, victimes de malfaiteurs, mais aussi de personnages qui avaient auparavant démontré un désintérêt absolu pour un geste humanitaire, pourtant de nécessité évidente et urgente. En approfondissant la réflexion sur le concept de neutralité, je me souvenais du souvenir de Solferino que j'avais voulu relire, aussi pour me convaincre de la nécessité pour moi de dire oui à l'appel qui venait de Genève. Et à l'époque, j'avais noté et copié une phrase d'Henri Dunant, je crois de 1863, mais qui était dans l'avenir sanglant et pas dans le souvenir, qui dit « Il faut bien se garder de mêler les questions religieuses dans une œuvre d'humanité internationale universelle. Sur ce terrain, on n'a plus le droit d'être protestant ou catholique, juif ou musulman, français ou prussien, anglais, russe ou chinois. C'est le drapeau de l'humanité seule qui doit régner. » Fin de citation. Je me rappelais également qu'une importante contribution au droit humanitaire avait été donnée au XVIe siècle par les juristes espagnols Francisco de Vitoria, dominicain, et Francisco Suárez, jésuite. Neutralité, donc, mesdames et messieurs, un principe avec beaucoup de facettes dans l'action du CICR, mais aussi pour le personnel appelé à l'action humanitaire sous le signe de la Croix-Rouge. Neutralité religieuse aussi, comme celle du Samaritain qui ne voulut pas savoir l'origine et la croyance de la victime, ni celle des malfaiteurs disparus. Il était pour moi d'emblée évident que le président du CICR, comme tous ses collaborateurs et collaboratrices, ne devait pas proclamer un principe religieux comme fondement de leur action, tout simplement pour rester crédible dans leur neutralité, qui devait être le fil conducteur de leur action sous le signe Inter Arma Caritas. C'est là que le document de Baltimore, que je viens de citer, souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence, vint à mon secours pour me convaincre que ma foi chrétienne ne pouvait ni devait m'empêcher d'être homme poids rouge. Cependant, en reprenant l'histoire de la création du CICR, je ne pouvais que constater l'engagement chrétien des cinq fondateurs, notamment dans l'île du Lan, on l'a entendu ce matin d'une façon très claire. Dans ce manir de Solferino, il y a une phrase essentielle, qui est celle citée ce matin par Roger Durand sur la fondation des sociétés de secours. Je désire que la charité, sous une forme de société de secours, puisse disputer à la guerre, etc. Mais important dans cette phrase, c'est que ça commence en disant « Au nom de l'humanité, de la raison, du christianisme et de la politique elle-même, je désire à l'heure solennelle où des hommes, des concitoyens, des chrétiens armés. » Donc on voit là-dedans l'engagement dans les Dunans comme chrétien. Et donc si cette phrase est fondamentale pour la création du mouvement de la Croix-Rouge, elle met aussi en évidence ce fondement chrétien du fondateur de la Croix-Rouge. Dans un de mes pèlerinages d'étudiants comme brancardier à Lourdes, j'avais noté des prêtres qui, sur leur robe noire, portaient une croix latine rouge. En cherchant plus loin, on me disait qu'il s'agissait de Camilliens, un ordre dévoué aux soins des malades. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aller un peu plus au fond de la chose et j'ai découvert que le pape Sixte Quint, Sixte V, je sais pas, on dit, dans une bulle apostolique de 1586, autorisait cette congrégation à utiliser la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'était donc pas quelque chose de tout à fait étranger au catholicisme. À ce qu'il paraît, il y avait 100 Camilliens à Solferino le 24 juin 1859 avec la Croix-Rouge sur la poitrine. Neutralité, oui, qui n'est pas indifférence, chers amis, c'est important. Mais c'est du respect qui doit permettre à celui qui s'engage dans l'action humanitaire de saisir sa responsabilité confrontée à la souffrance humaine. La Croix-Rouge, mouvement laïque, repose donc, malgré les apparences qui pourraient faire croire au contraire, sur des principes moraux qui restent aussi sur l'arrière-fond des principes fondamentaux modernes du mouvement. Si l'on songe au mandat conventionnel du CICR en faveur des victimes de la guerre, on constate que les principes de responsabilité et de solidarité sociale sont au service de l'être humain dont il s'agit d'alléger la souffrance et sauver sa vie. Et aider, c'est servir. Et servir reste profondément un sentiment moral, comme je voulais déjà à 18 ans, lorsque je choisis ma devise de vie. Et la neutralité religieuse de la Croix-Rouge ne peut freiner l'action sur la base de ces principes. En revenant sur la phrase de Baltimore, souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence, je voudrais dire que c'est bien l'action humanitaire et son efficacité qui peut exister dans le silence sur ces croyances religieuses. Peut-être peut-on revenir à la parabole de Luc pour souligner la spontanéité du geste du Samaritain pour porter secours. Et il est dit, il fut ému de compassion. Compassion qui est un élan du cœur et pas l'exécution d'un commandement. Et nous nous trouvons à nouveau dans une situation qui nous ramène au principe chrétien de servir. Servir le prochain est bien la réalisation du commandement fondamental. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui revient à nous rappeler la règle d'or. Tout ce que vous voulez soit fait à vous par autrui, faites-le vous-même à leur égard. On peut ici affirmer que la compréhension intime du prochain et de sa situation sont le fait de l'amour chrétien. Mesdames et messieurs, chers amis, pourquoi cette longue introduction ? Pour vous dire que ma foi chrétienne, je suis catholique romain pratiquant, ne m'a pas empêché de répondre oui avec conviction au CICR. C'était accepter la neutralité religieuse institutionnelle du CICR sans pour autant renoncer en rien à mon engagement de chrétien. C'est ainsi que j'ai, par exemple, très rarement manqué une messe dominicale dans ces 13 ans de CICR. À Genève, généralement dans la chapelle d'une pouponnière ou dans l'église de Collecte Bossy où prêchait l'abbé Chabat qui nous a toujours soutenus et que nous avons beaucoup admiré, ou encore dans une église romane du Tessin. Et sur le terrain, c'était parfois les délégués qui avaient découvert ma foi chrétienne qui m'accompagnait dans un temple ou dans une église. Dans mes discours, souvent tristes circonstances, même à la cathédrale Saint-Pierre, lors de prises de congé de délégués disparus suite à des incidents sur le terrain, je maintenais ma neutralité religieuse, où je restais très interreligieux, comme lors de la cérémonie, en souvenir des 6 collaborateurs assassinés en Tchétchénie, dans notre hôpital de Noviatagui. Pour rester dans la fréquentation d'églises, je voudrais, chers amis, rappeler mes pèlerinages répétés à la Chiesa Maggiore du Castiglione delle Stiviere, déjà mentionné ce matin par Roy Junon, où le CICR avait apposé sur la paroi interne une plaque qui rappelle que dans cette église transformée en lazaret, Henri Dunant avait soigné les blessés de la bataille de Solferino et que là est née l'idée de la Croix-Rouge. J'étais particulièrement ému lorsque, le 22 juin 1991, à l'invitation inattendue de l'évêque de Mantoue, Mantova, ça se dit, je crois en français, Mantoue, j'entendais le pape Jean-Paul II, dans son serment dans cette église, rappeler, je le cite, l'œuvre du philanthrope genevois Henri Dunant, qui fut à l'origine, dans ce même endroit, de l'idée de la Croix-Rouge. Le pape ajoutait que Dunant, témoin fortuit de la bataille, était en admiration de l'œuvre de secours prêtée par les habitants du lieu, prêts à soigner les blessés de diverses nationalités qui étaient pour eux tous frères. Fin de citation. J'aime rappeler cette rencontre, car le pape y exprimait, et je le cite à nouveau, son appréciation pour la Croix-Rouge internationale, qui a rendu multiples services et continue à les rendre à l'humanité dans les moments tragiques des guerres. Fin de citation. Jean-Paul II avait déjà, lors de sa visite au CICR à Genève en juin 1982, je n'y étais pas encore, affirmé, je cite une partie de son discours, « Puisse l'humanité écouter davantage l'appel qui a si fortement ému Henri Dunant, « Nous sommes tous frères ». Fin de citation. Henri Dunant, il est vrai, nous l'avons entendu ce matin, avait fortement été inspiré par sa vision chrétienne de la vie, comme aussi ses quatre autres collègues du premier CICR. Sans le dire expressément, le pape, en toute discrétion, faisait valoir l'origine chrétienne de l'œuvre de secours qui aboutit à la Croix-Rouge. C'était donc juste de se réjouir qu'Agener et Castiglione, le primat de l'Église catholique, aient, dans ses propos, passé outre à la vision du CICR, institution de protestants qui avait eu son origine et qui maintenait son siège dans la ville de Calvin. À ce propos, il me plaît de souligner que pour évoquer l'œuvre de la Croix-Rouge, je me suis souvent servi de la devise bien genevoise « Post tenebras lux ». Et encore une référence à Henri Dunant, lequel, dans une lettre à l'évêque de Saint-Gall, depuis Haydn, après avoir reçu le prix Nobel pour la paix, écrit, je cite, « Ce que je désire surtout, c'est que le Saint-Père soit informé que l'œuvre que je conçus et qu'il m'a été donné d'accomplir a été uniquement inspirée par l'expérience du Christ, par le sentiment le plus vraiment catholique qui existe dans le monde, la pure charité. » Je trouve ça impressionnant. C'est bien de s'en souvenir. Et c'est une lettre qui n'est pas très connue, parce qu'elle ne figure pas, je crois, dans les écrits. Et l'emblème, pour moi, sacré en deux sens, la croix grecque rouge sur fond blanc, naturellement symbole de la neutralité du CICR, mais aussi en me rappelant constamment, en discrétion, mon engagement de chrétien. Certains pourraient s'étonner, chers amis, que j'ai eu souvent cherché le contact avec la diplomatie du Saint-Siège. C'est la quantité et la qualité des relations diplomatiques du Vatican qui m'a amené à chercher des informations, mais surtout des alliances ad hoc sur des actions humanitaires spécifiques, notamment l'accès à des détenus de sécurité, compte tenu que le Saint-Siège avait ratifié les conventions de Genève de 1949 et puis les protocoles additionnels. Plus que ma foi catholique, c'était mes relations personnelles du temps de mes études et aussi de mon activité à l'ambassade suisse de Rome, où j'étais aussi chargé à la fin du concile officiellement du Saint-Siège, qui m'avait amené à connaître un certain nombre de personnes de contact au Vatican. Et si nécessaire, je demandais encore conseil au commandant de la garde suisse pontificale. C'était, chers amis, dans la deuxième moitié de 99, que, sur initiative de l'ambassadeur Walter Giger, le doyen de Saint-Pierre, William McComish, ici présent, prenait l'initiative d'essayer de rédiger un appel spirituel confronté à une situation désastreuse dans le monde où toute religion confondue, on se référait souvent au Tout-Puissant pour justifier guerre et violence. Un groupe interreligieux universel de toutes les dénominations présentes à Genève avec le concours en fin de parcours de ce que j'appellerais la société civile internationale représentée par la haute commissaire aux réfugiés, la haute commissaire aux droits d'homme et le président du CICR que j'étais, décidé d'un très beau texte lancé à la cathédrale Saint-Pierre le 24 octobre 1999. Je pense que ce soir, on entendra beaucoup plus de cet appel spirituel lorsque nous serons ensemble à la cathédrale Saint-Pierre. Mais je voudrais simplement rappeler ici quel était le contenu principal de cet appel qui demandait à tous les puissants du monde de respecter de manière absolue trois préceptes. Un, ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence, quelle qu'elle soit. Deux, ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute discrimination et exclusion. Trois, ne pas utiliser de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa richesse ou de son statut social pour exploiter ou dominer l'autre. Alors vous conviendrez que ce texte, qui est un texte ouvert à personnes et institutions aussi sans religion, m'a amené à m'engager in fine dans le lancement de cet appel, même comme président du CICR. Vous ne serez pas étonné de savoir qu'après avoir suivi de près les négociations de paix pour le Mozambique, je n'eus aucune hésitation à accepter les invitations successives de la communauté de Sant'Egidio pour leur grande conférence de paix, interreligieuse et laïque, Uomini e Religioni, où je fus souvent appelé à modérer des tables rondes, comme cela fut le cas depuis octobre de cette année. C'était toujours l'occasion de faire passer un message sur le CICR à sa mission devant les leaders religieux et politiques du monde entier. Chers amis, moi, chrétien convaincu, j'étais président du CICR sans renier ma religion. Oui, j'étais fidèle à l'exclamation de Baltimore, « Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. » Mais dans des moments de détresse, où le terrain me causait beaucoup de soucis, je récitais la prière de saint François d'Assise qui dit « Seigneur, donne-moi la sérénité de supporter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse de distinguer les uns des autres. » Je vais conclure ce témoignage en vous disant que la première épître de Pierre m'a souvent consolé et motivé sans que je la proclame en public. Elle dit entre autres, et je cite, « Et qui donc peut vous faire du mal si vous vous montrez zélé pour le bien? Que si pourtant vous deviez souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez d'eux aucune crainte, ne vous laissez pas troubler, mais traitez sainement dans vos cœurs le Christ Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. Ayez bonne conscience afin que soit confondu sur le point même où en vous calomnie ceux qui décrivent votre bonne conduite dans le Seigneur. Car mieux vous voudrez souffrir si telle était la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Moi, chrétien convaincu, j'étais donc, chers amis, heureux de pouvoir accomplir pendant près de 13 ans la mission de président du CICR, institution laïque et art religieuse que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup donné. Cela pourrait vous paraître étonnant qu'en préparant cette conférence, lisant un article du professeur Eduardo Greppi sur christianisme et droit international humanitaire, j'y trouve une phrase me concernant en ces termes. Je ne sais pas si vous voyez, je devrais rougir en lisant cette phrase que j'ai trouvée il y a quelques jours, tout à fait par hasard. Je le cite en traduisant de l'italien, « Une claire inspiration chrétienne transparaît aussi dans la formidable action humanitaire réalisée par Cornelio Somaruga, président du comité international de la Croix-Rouge de 87 à 99, ce président assurant compatible la profonde et convaincue dimension du catholique romain, appelé au sommet d'une institution, la Croix-Rouge imprégnée des valeurs du christianisme protestant genevois, avec l'engagement de défendre la crédibilité de son action humanitaire, axée sur le plus rigoureux respect des principes de neutralité, apolicité et aconfessionnalité. Je vous remercie.
Voilà, merci Monsieur Sommaruga, vos applaudissements disent notre gratitude. On pourrait continuer à vous applaudir longtemps, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions.
Nicolas Borsignère, d'abord merci pour ce superbe témoignage très émouvant de la part d'un président catholique dans l'oratoire de Calvin. Je pense que c'est quelque chose de très fort. Pour le reste de l'audience, je suis un ancien délégué du CICR. Et la question que je vais poser est la suivante. Pendant des années, nous avons fait des contorsions extraordinaires pour effectivement dissocier les origines chrétiennes de la Croix-Rouge, du CCR, pour toutes les raisons personnelles que vous pouvez imaginer. J'étais encore à Bruxelles la semaine dernière et les échos du fait que cette conférence avait lieu aujourd'hui créaient un certain remous, y compris à Bruxelles et dans les milieux Croix-Rouge, parce que du fait des craintes que le rappel, à part ça absolument évident, des origines chrétiennes de la Croix-Rouge, des effets que ça puisse avoir dans un monde où le fait religieux est tellement clivant, le Sahel, le Moyen-Orient, comme vous le savez, etc. Alors, un côté de moi me fait penser qu'au fond, cette conférence aurait été impossible il y a 20 ans. Et je ne suis pas très étonné qu'il n'y ait vraiment aucun représentant actif du CICR aujourd'hui, présent aujourd'hui. Je pense qu'il y a une espèce de devoir de retenue. Alors j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires sur cet aspect qui me semble plus clivant aujourd'hui de la religion qu'il ne l'était déjà quand plusieurs d'entre nous étaient en poste, ainsi que vous. Quel commentaire est-ce que cette interrogation vous amène? Merci.
Je voudrais corriger un peu mon ami Nicolas. Le CICR est présent ici avec son vice-président non permanent, que je salue, Olivier Baudot. Je ne sais pas s'il a disparu entre-temps, moi je ne vous vois pas, mais il était là. Et donc c'est important de dire que le CICR ne fuit pas des manifestations de ce genre. Alors, est-ce que on aurait pu avoir une conférence de ce genre il y a 10 ans? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on réfléchisse à ses origines. C'est une question d'histoire, et c'est bien de le dire. Mais l'important, et j'ai tâché moi-même de vous le démontrer un peu dans mon comportement, l'important c'est que la neutralité de l'institution, comme aussi la neutralité individuelle de chaque représentant de l'institution, ne soit pas mise en cause, qu'elle reste en dehors de ses principes d'origine religieuse. Du reste, si on prend les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, non pas seulement neutralité, impartialité et indépendance, mais les autres principes aussi, on voit qu'il y a des origines morales, des origines chrétiennes, sans que ceci apparaisse à l'extérieur. Et je crois que tous mes prédécesseurs, le CICR a réussi à faire en sorte d'être reconnu aussi par toute une série de responsables de gouvernement du monde musulman surtout. Je crois que le 70% des activités du CICR maintenant, au point de vue budgétaire et au point de vue de personnes, se passe dans des pays musulmans où il y a une série de guerres civiles, de conflits internes. Mais la neutralité du CICR reste là. Il ne faut pas, au fond, mettre en doute cette neutralité par quelques incidents qui peuvent se passer dans certains pays en disant « Ah, on a tiré sur la croix rouge, on tire aussi sur le poisson rouge ». Ce sont des choses inadmissibles, mais qui malheureusement se passent, comme aussi à mon époque, trop souvent, j'ai perdu des collaborateurs et des collègues dans cette situation. Mais ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas l'institution elle-même, c'était au milieu des conflits que nous avons eu ces pertes.
Pour rebondir sur la dernière déclaration que vous venez de faire, est-ce que vous ne croyez pas, en rétrospectivement, que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman n'est pas une guerre de religion à proprement parler, comme nous l'avons connu dans le christianisme, le catholique, le protestant, les hébreux l'ont connu. C'est une guerre des tolérants contre les intolérants, ou de l'intolérance contre l'intolérance, car les intolérants musulmans tirent dans tous les sens, dans les mosquées, pendant que les gens font leurs prières ou enterrent leurs morts. Donc, ce n'est pas que nous sommes menacés particulièrement en tant que chrétiens, mais par des intolérants qui, souvent, n'arrivent pas à être maintés du tout par leur haine plus raisonnable. Comment est-ce qu'il faut aborder ça?
Bon, M. Wendler, je crois que là, vous éloignez un peu de ce qui est le sujet que j'ai présenté, c'est-à-dire de comment moi-même j'ai abordé ma mission de président du CICR. Mais je voudrais vous répondre en disant qu'il y a, je crois, dans toutes les religions, des fanatiques qui utilisent des principes religieux d'une façon inacceptable. Même nous, chrétiens, nous devons voir qu'il y a du fondamentalisme chrétien qui est problématique. Et je crois que dans le monde musulman, c'est une question d'interprétation du Coran de façon différente selon les groupes qui sont là. Donc c'est très regrettable. C'est vrai que ce sont des luttes sur base religieuse, mais je ne veux pas, par cela, dire que l'action du CICR et de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge dans cette situation soit nul, soit anéanti par ces conflits de religion.
J'aimerais vous entendre à propos de la question de Croix-Rouge et Croissant-Rouge. C'est finalement assez paradoxal et peut-être contradictoire avec la neutralité de la Croix-Rouge qu'il ait fallu un autre symbole pour cette activité dans le cadre de pays musulmans. Est-ce que ça sous-entend que pour les musulmans, la Croix-Rouge est bel et bien un mouvement chrétien?
Bon, il faut aller un peu dans l'histoire, n'est-ce pas? Lorsque, dans la deuxième partie du 19e siècle, il y a eu la guerre des Balkans, il y a eu la première fois l'utilisation du croissant par une société de secours et par des services sanitaires de l'armée. C'était l'Empire ottoman, c'était les Turcs qui ont commencé à utiliser le croissant, tout en notifiant ça au CICR et à la Suisse, qui était le pays dépositaire des conventions. C'est regrettable, mais il n'y a pas eu vraiment de réaction de la part du gouvernement suisse ni de la part du CICR. On a laissé un peu aller les choses. Et puis on en est arrivé à 1906 où il y a eu une révision de la première convention où ce même gouvernement turc a essayé d'avoir la reconnaissance de son emblème poisson rouge dans la convention, ce qui a failli, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Mais en 1929, autre révision des conventions de Genève, là, il y a eu de nouveau cette proposition qui est entrée dans le droit international à travers la révision de la première convention de Genève. Mais, à l'époque, il était dit que l'emblème additionnel de croissant rouge pouvait être utilisé par ceux qui l'utilisaient déjà. Donc, dans un certain sens, on donnait la reconnaissance à deux pays. C'était la Turquie et l'Égypte. Et après cela, surtout aussi dans la phase de décolonisation, il y a eu une multiplication de gouvernements qui ont choisi pour leur service sanitaire de l'armée comme emblème protecteur le croissant rouge. Et là aussi, c'est un peu regrettable, mais peut-être que ça aurait été difficile qu'on réalise une fermeture à cette dynamique, c'est que ni le CICR, ni le gouvernement suisse ont voulu rappeler que le croissant était réservé seulement à ces deux pays. Alors, maintenant, la plupart des pays musulmans ont le croissant. Mais c'est pas toujours le cas. Il faut savoir que le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie, a encore une société de Croix-Rouge. Le Sénégal, qui est un pays largement musulman, a sa société qui est Croix-Rouge. Or, du point de vue juridique, il n'y a absolument aucune différence de la protection que le signe de Croix-Rouge donne et que le signe de croissant rouge donne. Maintenant, il faudrait élargir parce que depuis 7 ou 8 ans, il y a un autre signe, symbole, qui est le cristal rouge et qui a exactement les mêmes effets. Or, je crois que si on veut nier que la croix rouge soit un symbole chrétien qui est arrivé à être le signe protecteur dans la première convention de Genève, il faut tenir compte que l'expression de prendre le drapeau suisse avec les couleurs renversées comme emblème protecteur nous ramène à toute une histoire qui est celle de l'emblème suisse. Ces jours-ci, il y a la radio et la télévision qui font passer des films sur les Suisses. Et si vous regardez le film sur Stauffacher, là vous voyez que les Suissois avaient utilisé déjà à l'époque leur emblème avec du rouge et une croix blanche. Et c'est du reste ce qui a été utilisé aussi par ceux qui sont partis de Suisse en croisade. Donc on ne peut pas nier cette origine. Seulement il faut insister, comme moi je l'ai fait pendant toute ma présidence, toujours en disant que c'était un choix qui a été fait pour honorer le pays qui avait donné hospitalité à la première convention, à la première négociation pour la convention de la Croix-Rouge. Du reste, le symbole est né dans la conférence d'experts de 1863. C'est là où c'est sorti comme ça, sans savoir très bien qui en a la paternité, parce que il y a des indications assez divergentes de l'un à l'autre. Mais l'important est de savoir que ça a été fait en utilisant le drapeau suisse avec couleur renversée. Et c'est ça qu'il faut continuer à propager pour souligner la neutralité de l'institution. Et je crois que le message passe. Moi, je dois dire que dans mes presque 13 ans de présidence, je n'ai jamais eu une attaque quelconque de gouvernement ou de société nationale sur le fait qu'il y ait la croix rouge comme symbole chrétien. Ceci est venu souvent par d'autres sources dans les médias, mais pas par des démarches directes de la part de gouvernement.
Bonjour, Richard Gauthier, j'ai aussi été il y a très longtemps délégué de la Croix-Rouge. Ce n'est pas une question, c'est juste une petite remarque au sujet de la Croix-Rouge.
Parlez lentement pour que je vous comprenne.
Au sujet de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, j'ai été délégué en Syrie il y a plus de 30 ans. Il m'est arrivé plus d'une fois pendant des événements de guerre que soit le Croissant Rouge syrien, soit le Croissant Rouge palestinien viennent à la délégation du CICR chercher des drapeaux avec la croix. Il l'estimait, à tort ou à raison, beaucoup plus efficace comme protection. Voilà, c'est tout.
Ouais, merci.
Et je ne pense pas que c'était des cas isolés.
Y a-t-il eu des périodes où le CICR, la Croix-Rouge, n'a pas pu garder sa neutralité?
Bon, vous savez, c'est tout une question d'interprétation. Mais généralement, si vous regardez l'histoire du CICR, vous voyez qu'il y a des protestations des deux parties à un conflit, qu'il soit interne ou international. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte, donc le CICR a vraiment été neutre. S'il est contesté d'un côté et de l'autre, ça veut dire qu'il a eu une voie moyenne qui était la voie correcte. Alors, dans l'histoire du CICR, on pourra vous ramener des moments où il y a eu des doutes sur la possibilité d'agir de façon strictement neutre. Mais je crois que ce sont des cas très isolés et moi j'admire tous les délégués du CICR qui, depuis des décennies, se trouvent dans des situations très difficiles où ils sont révoltés pour l'une ou l'autre chose qu'ils voient, mais ils gardent leur ligne de neutralité pour que l'institution soit vraiment acceptée. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'institution CICR, dans son action sur le terrain, renonce à toute protection armée. À contraire des institutions onusiennes ou d'organisations non gouvernementales, le CICR veut agir, rejoindre les victimes sur la base de ses principes, dans un dialogue constant avec les parties pour expliquer ce qu'on fait, mais non pas avec la protection armée. C'était dans les Balkans, dans la guerre, surtout en Bosnie-Herzégovine, une situation assez particulière, parce que vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu des décisions du Conseil de sécurité avec des sanctions contre la partie serbe, que ce soit la Serbie que la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Vous savez aussi que l'ONU avait chargé le Haut Commissariat pour réfugiés d'être la tête de file pour les secours à apporter à Bosnie-Herzégovine. Ils ont fait une chose extraordinaire qui est le fameux pont aérien qui a été sur Sarajevo et qui a au fond permis à Sarajevo de rester malgré tout debout. Et puis alors dans tout cela vous aviez l'UMPROFOR, c'est-à-dire des casques bleus qui agissaient avec un mandat particulier de protéger l'action du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et c'était une protection armée. Alors le CICR a toujours gardé une distance de cette façon de faire pour ne pas être confondu avec l'ONU qui avait cette protection. Et puis en plus, il faut savoir que les trois choses que j'ai mentionnées, les sanctions, l'action du Haut Commissariat pour les réfugiés et les casques bleus avaient toutes le même drapeau, toujours le drapeau de l'ONU qui est un drapeau bleu. Et tout cela a porté au fond à une situation où il était pour l'ONU presque impossible de opérer dans la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine. Et là, le CICR a pu opérer avec énormément de difficultés, mais il a pu opérer soit pour visiter des détenus, soit pour amener des secours, soit médicaux, que alimentaires et autres. Et alors là, il y a eu des attaques contre le CICR en disant, mais ils ne sont pas tout à fait neutres, c'est eux qui vont en Serbie ou dans la République Srpska. Et pourquoi? Alors il fallait comprendre que c'était une action tout à fait neutre dans le sens que nous étions ceux qui allaient des deux côtés. Nous allions aussi là où l'ONU était exclue à cause des sanctions. Donc là, vous avez aussi un exemple de ce que les autres disent de vous. Je vous citerai une anecdote. J'étais à Sarajevo en venant en 95, en venant de la République Srpska. Et la télévision de la République Srpska, quand j'étais à Paris, m'a pris au moment où je serrais la main à Karadžić, qui était le président qui s'était proclamé de la République Srpska. La République Srpska, c'est une partie de la Bosnie-Herzégovine. Et puis, je serrais aussi la main à son épouse, que lui avait indiqué être la présidente de la Croix-Rouge de la République Srpska. Croix-Rouge inexistante, parce que on ne peut pas avoir une Croix-Rouge si une société nationale dans un pays qui n'est pas reconnu. Et alors, je arrive à Sarajevo, je suis attaqué par des journalistes dans une conférence de presse en disant, mais on vous a vu saluer Karadžić et Madame Karadžić à la télévision serbe, et maintenant vous venez à Sarajevo, chez nous, vous auriez dû venir d'abord chez nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire du CICR? Moi, je réfléchis un moment et j'ai répondu à cette journaliste, c'est une femme qui est connue parce qu'elle est encore à CNN, c'est Madame Amarpour. Je lui ai répondu, depuis que je suis au CICR, j'ai appris à laver mes mains plusieurs fois par jour. Et c'était au fond la réponse de dire, je dois parler avec tout le monde pour que mon opération, mon action neutre puisse se faire. Il faut pouvoir parler avec tout le monde.